Chez Auchan, on sait que les meilleures affaires sont celles sur les produits que vous aimez le plus. Et ça tombe bien. Pendant le mois des tops, le kilo de petits prix iodés Origine France est à seulement 2,49€. Vous avez bien entendu. Jusqu'à ce soir, le kilo de moules de bouchot spécialité traditionnelle élevée en France est à seulement 2,49€. C'est ça, le mois des tops Auchan. Auchan, avec plaisir. Moules de bouchot nettoyés prêts à cuire après rinçage élevés en France. Valable dans vos magasins Auchan participants.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 14h03, il nous reste une heure ensemble et on est ravis de la partager avec vous cette heure avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Daniel Riolo. Dans un instant, on parle de l'explosion du nombre de loyers impayés en France, plus 300% en 3 ans. Est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats? On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC. Il y aura RMC Conso, on parlera d'échange de maisons. C'est légal, bien sûr, pendant les vacances. Est-ce vraiment un bon plan? On en débattra avec Charlotte Méritant. Il y aura les immanquables avec Rémi Barré, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui et puis des places fabuleuses pour les Jeux Olympiques.
Exactement, si vous cherchez des places pour les JO, elles commencent à se faire rares pour vous, votre famille ou vos proches. C'est ici que ça se passe. Demain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris et nous vous offrons 100 places sur RMC. Vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des JO. Ça peut être la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres ou encore la natation avec le 4x4 nage. Vous envoyez dès maintenant par SMS Paris 2024, Paris 2024 par SMS au 7 32 16.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec l'augmentation du jour. Et c'est celle du nombre de loyers impayés en France. Selon Foncia, 15% des locataires ne paieraient pas leur loyer en temps et en heure. Un chiffre qui a triplé en 3 ans. Rémi, que peut faire un propriétaire quand il se retrouve dans cette situation?
Se fonder sur la loi du 27 juillet 2023. Elle est récente, cette loi. Oui. Et elle vise à mieux protéger les petits propriétaires. Elle a entre autres raccourci le délai dont dispose un locataire pour verser les sommes qui lui sont réclamés, un locataire qui est en situation d'impayé. Avant, il avait 2 mois pour rembourser sa dette, avant que toute autre démarche ne soit entamée. Désormais, il doit rembourser sa dette au maximum 6 semaines après le commandement à payer. Problème, la durée d'une procédure d'expulsion varie toujours en fonction de plusieurs facteurs, notamment de la complexité du cas. Par exemple, s'il y a des enfants, si le locataire est malade, ça peut arriver. Et là, forcément, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend aussi de la coopération de ce locataire, s'il est de bonne foi, si effectivement il explique qu'il va entamer des démarches pour parvenir à rembourser ses loyers.
C'est toujours ce qu'il dit au début.
Ou alors si au contraire, oui, mais parfois aussi, il n'y a pas de nouvelles du locataire, il ne veut pas répondre, il dit débrouillez-vous, moi je m'en fiche. Il y a aussi, évidemment, la charge de travail du tribunal, si le tribunal est saisi. Sans compter évidemment la trêve hivernale qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Là, durant cette période, vous le savez, on ne peut pas expulser un locataire, même si les procédures, c'est la procédure entamée, elles ne s'arrêtent pas. Hein, mais bon, en tout cas, la loi de juillet 2023, on l'a dit, elle est encore toute récente. Difficile d'avoir du recul sur ce qu'elle a pu changer. Mais en moyenne, en France, les délais entre le lancement de la procédure et l'expulsion effective d'un locataire varient beaucoup. Et la plupart des professionnels de l'immobilier s'accordent aujourd'hui à estimer que ce délai varie entre 6 mois et 1 an et demi.
Ouais, 1 an et demi, ça fait évidemment long pour le propriétaire qui doit continuer à payer ses loyers. Alors, est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats, Thierry Moreau?
Je pense que le mot important dans ce qu'a dit Rémi dans son explication très détaillée, c'est le mot bonne foi. C'est-à-dire que je pense qu'on a affaire à deux types de locataires. Des locataires qui sont dans la précarité, qui ont à un moment peut-être un accident de la vie qui fait qu'ils ne peuvent pas régler leur loyer. Et là, entre le propriétaire qui n'a pas à payer, évidemment, ce désagrément-là, il doit y avoir une intermédiation des services sociaux qui permettent d'aider à sortir d'une telle situation. En revanche, quand on a affaire à ces squatteurs professionnels, à des gens qui, par dessein, qui sont même d'ailleurs très bien organisés, hein, on le sait, il y a des réseaux de gens comme ça. Là, évidemment, la réduction de délai ne suffit pas. Ça a été un premier pas de la loi. Aujourd'hui, on a un engorgement des tribunaux sur ce type de dossier qui fait que ça n'avance pas. Là, il faut être évidemment impitoyable sur ces gens qui sont des professionnels du squat et du non-paiement des loyers. Je pense qu'il faut vraiment faire de la dentelle. Et la difficulté, c'est effectivement distinguer la personne de bonne foi de celle qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, la loi ne peut pas tout régler de manière comme ça, ferme et définitive. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà.
C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup de faits divers. Chaque jour, il y en a un avec une personne. Là, c'était une vieille dame qui est obligée de squatter son garage.
C'est incroyable.
Parce qu'elle a des locataires
ça,
qui ne veulent pas
inadmissible.
Partir de sa maison.
Et il faut rappeler, voilà. Contrairement, on a regardé ce matin, je t'en parlais, Estelle, pendant qu'on préparait cette émission, que contrairement à ce qu'on entend parfois, oui, les multipropriétaires, oui. C'est leur business, etc.
Non.
64% des propriétaires qui louent leur bien n'ont qu'un seul bien.
C'est ça.
Qu'ils louent.
Donc c'est pas les multipropriétaires,
c'est la classe moyenne.
Ce serait bien de combattre cette idée.
Mais c'est pour ça que regarde, tu rappelles les chiffres.
Et un tiers de ces propriétaires, loueurs, sont des retraités.
Voilà, donc on est loin de Bernard Arnault qui possède toute la côte et qui louerait à prix d'or ses appartements.
La dame dont on parlait, le fait divers dont on parlait, elle a fait une erreur majeure, c'est qu'elle a fait quelque chose d'interdit, elle a arrêté le compteur.
Ouais, elle a EDF.
Alors en plus, elle l'a payé parce que ça a créé de la moisissure et son logement est devenu insalubre. Et ça, c'est totalement interdit. Quand bien même on est excédé, quand bien même on a affaire à la deuxième catégorie dont tu parlais, Thierry, donc des gens vraiment pas sympas. C'est pas des gens qui ont un problème qui va
voyous.
Voilà,
des
voyous. Voilà.
Sympa.
Il y a tout un tas de choses que les propriétaires n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de changer les serrures. Ils n'ont pas le droit de forcer les serrures ou de profiter de l'absence du locataire pour le déménager. Ils n'ont pas le droit de couper les compteurs d'eau d'électricité. Ils n'ont pas le droit de couper Internet, téléphone, ils n'ont pas le droit de recourir à la violence. Oui, la loi protège énormément les locataires. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire.
Mais c'est un problème.
Et le problème de la
c'est
bonne
un vrai problème.
Foi et le problème de la dentelle,
non,
dont parle Thierry, effectivement, on est obligé d'aller au cas par cas, mais je suis pour une politique dure sur les escrocs, évidemment, qui existent vraiment. Mais pour tous ceux qui ont des réels problèmes, effectivement, la médiation, sachant que on ne peut pas virer quelqu'un qui a plus de 65 ans, on peut pas virer des personnes handicapées ou des personnes qui aident des personnes handicapées.
Mais le problème,
et
c'est
la médiation. Mais on revient toujours à ces tribunaux complètement.
Tout ça est inadmissible parce que de l'autre côté, rien ne vous dit que la personne n'est pas dans la mouise complète. Si son bien est squatté ou si elle ne peut pas en tirer les revenus, elle-même va être également dans la précarité. Donc moi, je veux bien cette histoire de bonne foi, mais il faut aussi savoir, et Rémi a donné des chiffres, que beaucoup de gens qui souffrent de ces loyers impayés finissent par eux aussi tomber dans la précarité, être mal en point. Pour un proprio qui est déjà, je le dis, mais c'est pas normal, peut dire... Bon, allez, il a pas besoin de cet argent pour vivre. Mais déjà, ça, on devrait même pas le dire.
Normal.
Parce que, à partir du moment où tu loues ton bien, celui qui ne paye pas, il est déjà hors la loi. Et c'est après qu'on examine éventuellement si vraiment il est dans la mouise. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas répondre à la question, faut-il expulser sans délai? Oui, parce que il faut un délai. Parce que tu dois quand même voir si la personne.
Mais évidemment, c'est pas 24 heures.
Non, mais c'est très échéancé.
Donc, il y a un délai, mais le problème, c'est qu'on est bien au-delà d'une histoire de délai. Il y a tous les cas particuliers, il y a tous les cas où tu peux pas. Et effectivement, la loi protège beaucoup, beaucoup, beaucoup trop le locataire, avec juste cette image que le proprio, c'est le riche, le locataire, c'est le pauvre, et que si tu payes pas, eh ben, en fait, c'est parce que tu peux pas, alors que dans plein de cas, on est juste dans des escroqueries, et Thierry a raison de le rappeler, et ça arrive des cas avec des proprios qui se font arnaquer, il y en a des tonnes.
Malheureusement. Sauf que quand le proprio essaye d'intervenir lui-même dans les cas que j'ai cités tout à l'heure, il risque 3 ans de prison quand même.
Je n'ai pas de cas comme ça, mais je crois que je préférerais tomber dans l'illégalité pour foutre le gars dehors.
T'as des histoires avec des gens qui sont squattés depuis des années, qui n'arrivent pas à trouver leur bien, et
la dame qui dort dans son garage, comme elle a coupé l'électricité qu'elle avait pas le droit, donc son logement est devenu insalubre, donc aujourd'hui on lui demande de rénover son logement, mais elle peut pas puisqu'elle touche pas les loyers.
Elle ne peut plus les expulser.
Sa situation est inextricable, elle-même est surendettée,
elle dit qu'elle a 800 euros de retraite par mois
et la loi ne va pas dans son sens. C'est un scandale.
Malheureusement, c'est les propriétaires, c'est qu'en fait ton locataire ne te paye pas, toi propriétaire tu te retrouves tout seul, alors que c'est au pouvoir public normalement de devoir régler le problème. C'est pas à toi propriétaire d'aller en médiation, etc., alors que c'est toi qui n'es pas payé. Tu subis un préjudice et personne ne t'aide. Alors normalement, c'est au pouvoir public de trouver un hébergement pour la famille qui ne paye pas, d'aider le cas échéant. Évidemment, si c'est une personne en situation de handicap, de lui trouver un hébergement, de lui trouver un accueil décent et de faire que le propriétaire ne soit pas lésé.
Après, il ne faut pas être étonné.
Le propriétaire ne doit pas payer la situation et là, les services sociaux doivent intervenir très vite. Et quand c'est des escrocs, c'est pas les services sociaux qui peuvent intervenir.
Après, on ne peut malheureusement pas être étonné quand tu es locataire et qu'avant de rentrer dans un bien, on te demande une tonne de garantie. Ouais. Malheureusement, ouais. La vérité, c'est que demain, moi, si j'ai un bien à louer, bah, il est possible que je demande des limites. Enfin, je vais exagérer volontairement. Les gens comprendront. Mais limite, je veux tout savoir de la personne qui va rentrer, quoi.
Mais bien sûr.
Quelles sont ses garanties
Moi, je veux avoir des garanties bancaires de la famille.
Ah, mais ouais.
Des parents,
parce que t'as tellement peur de ce qui peut se passer derrière.
Même quand t'es pas étudiant.
Que tu vas devenir, à limite, tu vas te comporter comme un mec du FBI, quoi.
Moi, mon deuxième appartement, on était un couple, on bossait tous les deux, il y a eu la caution de tous les parents. Sinon, on n'avait pas l'appart. J'ai trouvé ça dingue. Ouais.
Alors, on a beaucoup d'appels au 32-16 pour parler de ce sujet. On a notamment Nathan qui nous appelle d'Aubin dans l'Aveyron, qui est entrepreneur. Et Nathan, vous, votre logement a été squatté, hein, c'est ça ?
Oui, bonjour à tous. Alors, ouais, effectivement, on s'est fait squatter par un professionnel. État des lieux normal. Le mec nous a fait le virement pour la caution en direct. Les yeux, vendredi soir.
D'accord.
Bon, on s'est étonné le lundi, mardi de toujours rien recevoir sur le compte et quand on a appelé ce mec-là, il répondait plus, quoi. Il était parti en Tunisie.
Ah.
Et après, ça a été une véritable histoire. C'était un sacerdoce, il nous a jamais payé. Il a fait traîner et dès qu'il est rentré dans le logement, il nous a dit non, mais je paierai pas. Tout simplement parce que il y a un évier qui est bouché. J'ai dit comment ça ? Le dernier locataire, il n'y avait pas eu d'histoire. C'était nickel. L'appartement était refait à neuf il y a 3 ans. On s'est dit non, c'est pas possible, quoi. Et malgré toute la bonne foi qu'on y a mis, on s'est vite rendu compte que c'était un escroc. Et derrière, on est du coup allé voir les huissiers de justice. On a déposé une main courante contre lui parce qu'il nous a fait des menaces, etc.
Ah oui.
Enfin, une vraie cata, quoi. Hein.
Ça a duré combien de temps, Nathan ?
Bon, on a été assez rapide, ça a duré 3 mois. Là, on vient juste de réussir à le sortir, mais bon, enfin, on a la chance, c'est qu'on est 3 associés, 3 mecs grands et plutôt gaillards.
D'accord.
Ouais. Dont un gendarme, il a fini par avoir trop de pression et il est parti, quoi. Mais bon, c'était catastrophique.
Donc, vous reconnaissez avoir été quelque part un petit peu contraint de mettre un coup de pression?
Ah mais carrément Daniel, si on en
mais je comprends Nathan, moi je vois pas comment je crois que
mais
je cède.
T'as pas le droit de te faire justice toi-même, ça c'est un défaut
de... Regarde, Nathan est en train de t'expliquer que quelque part ça a duré que 3 mois, ça aurait pu durer beaucoup plus s'il n'avait pas mis ce coup de pression avec ses deux amis costauds.
Après Nathan, il a pas utilisé la violence, il a mis la pression.
On parle d'un coup de pression, mais déjà le coup de pression à la base ne devrait même pas exister. En fait.
Mais Nathan, au moins il vous a rendu votre logement en bon état.
Alors ouais, bonne surprise, l'appart il était nickel. Voilà, ça c'est
ça, ça
de mon côté, quoi. Mais bon, après il y a des escrocs, vous leur donnez le bon Dieu sans confession, quoi. Les papiers sont nickel. Voilà, et puis après nous ça fait 3 ans, on a d'autres logements, on n'a jamais eu d'histoire avec personne, tout s'est toujours très très bien passé. Voilà,
bien de le dire aussi Nathan, parce qu'on a toujours l'impression que voilà. Que c'est dur de louer son logement, mais enfin la plupart du temps, faut quand même le rappeler, ça se passe bien. Oui. Voilà, et puis vous ça s'est bien terminé parce qu'en plus votre logement n'a pas été dégradé, ce qui est quand même malheureusement très souvent le cas avec les locataires indélicats. Ils laissent jamais l'appart nickel, malheureusement, et malheureusement pour les propriétaires. Merci beaucoup Nathan en tout cas de nous avoir appelé. On
les
a aussi
garanties, il y a beaucoup de faux, attention, de faux bulletins de paie.
Bah,
faux... Donc c'est très très compliqué. Quand j'entendais Daniel tout à l'heure dire qu'il demanderait beaucoup de choses sur la personne qui doit aller dans son logement, c'est là aussi très compliqué parce qu'on peut aussi se faire arnaquer.
Évidemment, et on a plein de messages également sur l'appli RMC, plein de témoignages.
Ce message de Willy qui dit « Moi, je contrôle tous les papiers et je contacte les derniers bailleurs, c'est-à-dire les anciens propriétaires, l'entreprise même pour laquelle le candidat locataire travaille. »
Ah, carrément, tu peux appeler le patron de l'entreprise.
T'as pas le droit. Hein.
T'as pas le droit, mais bon.
Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire et que c'est
mais certains
propriétaire.
Voilà,
non, mais je suis d'accord, je ne juge pas. Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qu'il faut quand même.
Alors justement, on va demander à Christophe Demerson, notre invité, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Christophe Demerson, qui est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et
bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe Demerson. Justement, que peuvent faire les propriétaires, tiens, avant de louer leur appartement? Est-ce qu'on a le droit d'appeler l'employeur, les parents, les amis, les anciens bailleurs du locataire éventuel?
Bah écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de faire tout ça, comme on n'a pas le droit non plus de se faire justice soi-même. Alors, mais écoutez, oui, les coups de pression et tout ça, c'est vrai que ça peut se faire. On va raccourcir les délais, mais raccourcir les délais, je dis tout de suite, faut faire attention parce que c'est un jeu dangereux, un jeu très dangereux et qui peut coûter cher. On l'a vu avec l'histoire de la vieille dame, qui peut coûter cher aux propriétaires. Donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types d'impayés. Hein. Si on fait, vous en avez bien parlé dès le début, il y a deux types d'impayés. Il y a les impayés accidentels ou conjoncturels, on va dire, d'un côté. Ça, c'est pas le sujet. Et puis, on l'a vu au moment du Covid, où il y a, où tout s'est globalement bien passé, vu les impayés qu'il y avait, où tout s'est régularisé. Et puis, à côté de ça, on a une toute petite, je dis bien une toute petite fraction de professionnels, vous avez employé le mot, de l'impayé. Et ces professionnels de l'impayé, bah, en réalité, c'est du perdant-perdant pour tout le monde, pour toute la société française. C'est du perdant pour les propriétaires, bien sûr, qui sont inquiets. Et puis, c'est du perdant pour les locataires. Parce que j'écoutais les auditeurs et tous les gens disent, bah oui, mais tout le monde fait attention, on demande une tonne de papier, on téléphone. Bah oui, mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait très bien que si on tire le mauvais numéro, la mauvaise boule, eh ben, ou la boule noire, on va dire, eh ben, ça va être compliqué, très compliqué. Parce que les donneurs de leçons, les gens qui vous expliquent que les propriétaires sont des salauds, on les connaît, mais ce qu'il faut voir, c'est que le petit propriétaire, à côté de ça, les 35 millions de petits propriétaires, qu'est-ce qu'ils voient à côté de ça? Eh ben, ils voient à côté de ça que tout continue à tourner normalement. C'est-à-dire que la taxe foncière, on commence à payer, à en parler, ouais, puisqu'elle vient d'être votée. Eh ben, la taxe foncière, elle tombe, les charges de la copropriété, elles tombent, les assurances tombent, tout le monde tombe, mais personne ne dit rien, là. Tout le monde trouve ça normal. La vieille dame, la veuve du Creusot qui compte sur son loyer, personne s'apitoie sur elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, le propriétaire, lui, il a le pistolet sur la tempe. On lui dit, ben monsieur, voilà, vous prenez le risque. Et aujourd'hui, on en est là. Alors c'est vrai que la loi du 27 juillet...
Elle est plutôt 2023, bien faite, cette loi.
Elle est bonne dans l'esprit, mais vous l'avez aussi très bien résumé. Elle est bonne dans l'esprit et on raccourcit les délais. Mais quand on parle de raccourcir les délais, Estelle... Ça veut dire qu'on passe de quoi? On passe de 3 ans à 18 mois, parce que j'ai coûté 6 mois. 6 mois, si vous voulez, les gens, je ne sais pas, c'est des gens qui habitent à Lourdes. Hein. Mais on va dire une moyenne de 18 mois. Une moyenne de 18 mois, rendez-vous compte ce que c'est pour la veuve du Creusot ou pour la veuve de Sarreguemines. Il y a beaucoup de personnes âgées. Vous le disiez, il y a un tiers de retraités qui ont un seul appartement et qui comptent dessus pour vivre. Et pendant ce temps, les charges courent. Pendant ce temps, les impôts fonciers tendent. Et pendant ce temps, l'appartement est détruit.
Donc, j'entends Christophe Demerson, mais après, enfin, vous l'avez dit, il faut distinguer aussi deux types de loyers impayés. C'est-à-dire que vous avez aussi la maman qui a trois jeunes enfants et qui se retrouve au chômage du jour au lendemain.
On n'en parle pas de ça, Estelle, je vous l'ai dit. On l'a vu, on a encore eu la preuve.
Mais ça existe.
Mais lui,
il ne parle pas de ça.
Et moi, je fais les Tours de France. Ça, c'est une partie infinitésimale. La dame qui a trois enfants.
Au final, c'est eux, ils sont honnêtes.
Et qui paye son propriétaire régulièrement. Vous téléphonerez et je serai prêt à prendre l'appel. Ça n'existe pas que les propriétaires les mettent dehors. C'est pas vrai. Les propriétaires, ils sont excédés. Et moi, je le vois. Et le conseil que je donne, c'est justement de dégainer tout de suite quand il y a des impayés. Pourquoi? Parce que.
Et de dégainer avec la loi, bien sûr.
Ils attendent, ils reculent. Oui, on va s'arranger un mois et demi, deux mois. Et puis, petit à petit, la charge, elle grossit. On le voit. Les statistiques, elles sont là. Quand les personnes, elles entament la procédure, elles en sont déjà à 6 mois, à 1 an.
Oui, bien sûr.
Vous voyez, on n'est pas.
En fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que, voilà, il faut marquer le coup tout de suite, et puis après, s'ils payent, tant mieux, et puis on retire le truc, et il n'y a pas de souci. Mais effectivement, quand on attend, quand on croit à la bonne foi, etc., et c'est là où ça peut s'envenimer, et que ça peut durer très longtemps. Je voudrais qu'on prenne en ligne, Christophe Demerson, vous avez dit, effectivement, la dame qui n'arrive pas à payer, etc., ce n'est pas le sujet. Mais ça arrive en tout cas, et c'est le cas d'Alicia, qui nous appelle de Mézieux. Mézieux, c'est situé dans la métropole de Lyon. Alicia, elle est en arrêt maladie, et malheureusement, Alicia, vous ne pouvez plus payer votre loyer, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Donc, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous parler. Je vous regarde tous les jours et Dieu sait que j'aurai de quoi intervenir sur l'ensemble des sujets. Par rapport au loyer, alors franchement, pour vous la faire très courte, je suis dans le domaine des ressources humaines. Je suis responsable RH de formation. Le dernier remplacement que j'ai fait, c'était un responsable. J'ai remplacé un responsable formation en 2022. Fin 2022, je ne veux pas être en CDI avec cette entreprise parce que beaucoup de dysfonctionnements et beaucoup de maltraitance. Et en fait, je me suis terminé ce contrat en épuisement professionnel.
D'accord.
À partir de là, en fait, un conflit aussi s'est créé avec l'employeur parce que justement, pas voulu payer les heures sup, etc. J'ai dit, bah, hors de question, je travaille pas pour la gloire.
D'accord.
Procédure prud'homale en cours. Et en fait, ça a duré le temps que ça a duré. J'étais employée en plus sur un SMIC. Donc ça, c'était bon. Je l'avais accepté, mais je peux vous dire que je le regrette. Donc ça veut dire que mon chômage derrière, c'est calculé sur le SMIC. Donc
oui,
ça veut dire qu'actuellement, j'ai 950 euros de chômage.
D'accord.
Et j'ai un loyer de 665.
Ouais, donc c'est mort. Ouais,
c'était carrément injouable. J'ai continué à payer mon loyer pendant près d'un an. Et en fait, j'ai prévenu mon propriétaire qui est venu. Ça fait 12 ans que je vis dans cet appartement. Il était même prêt à me mettre une cuisine. Enfin, vraiment, le gars super sympa. Il me dit, bah voilà, en plus, votre appartement super bien entretenu. Je dis, bah écoutez, c'est mon lieu de vie. Il n'y a pas de raison de le flinguer. Et en fait, à partir du mois d'octobre l'année dernière, je me suis retrouvée complètement acculée. Et je ne pouvais plus sortir cette somme, j'ai tapé dans toutes mes économies. Alors moi, je suis aussi la personne qui fait partie des personnes qui ne sont pas aidées. Hein. Enfin, moi, c'est de toute façon, c'est quand je vois une assistante sociale, c'est les gens comme vous, je peux rien faire.
D'accord.
Donc, j'ai tapé dans toutes mes économies et en fait, la situation aussi entre-temps s'était aggravée. Donc, procédure prud'homale s'engage. Moi, mon état ne s'arrange pas. J'étais hospitalisée dans une structure qui traite les psychopathologies liées au travail.
D'accord.
Et donc, en soins, plusieurs fois par semaine, les soins continuent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des tas de soucis de santé. Et depuis le mois d'octobre, je ne paye pas. J'ai prévenu. J'ai évidemment communiqué avec l'agence qui m'a remercié, qui m'a dit « Bah oui, ça fait 2 ans que vous êtes dans l'appart, vous avez toujours tout payé. » Et en fait, aujourd'hui, j'ai une procédure d'expulsion sur le dos. Donc, je dois en plus me retrouver un avocat pour une procédure spécialisée en droit immobilier. Et parce que le propriétaire n'en démord pas. Alors, j'entends Daniel et puis Estelle, j'entendais parfaitement le côté, bah, nous, en tant que propriétaire, il y a juste on a un contrat, on est lié par ce contrat. Et c'est vrai, je dois récupérer simplement ce qui m'est dû. Et c'est vrai, je suis la première à le dire. Moi aussi, j'aimerais investir dans l'immobilier. Je me dis que si ça m'arrivait, ça serait mais terrible. Et la question de la mauvaise foi ou de la bonne foi, pour le coup, là, elle se pose. Pardon encore, parce que je comprends.
Non, mais c'est ce que dit Christophe Demerson aussi, bien sûr qu'elle se pose, mais Alicia.
Ça, on l'a tous dit, Alicia.
On est d'accord avec vous, mais
après,
là, aujourd'hui.
Le propriétaire ne peut pas être également dans la mouise, parce que parfois, ça peut lui arriver, parce qu'en fait, il y a plein de cas où en fait, il faut se dire que certaines personnes ont mis les économies d'une vie dans un petit appartement et qu'elles n'ont rien d'autre à part ça, et qu'elles comptent sur ce loyer-là pour tout simplement vivre. Quoi.
A priori, Alicia, il existe des solutions. Enfin, j'imagine, avec les services sociaux, les services de la ville. Oui, mais en fait, le problème, et votre situation, elle est terrible. Je veux dire, évidemment, et on l'entend dans votre voix. Je pense que jamais vous auriez imaginé en arriver là, etc. Mais malheureusement, le propriétaire, quelle solution il a à part d'entamer cette procédure, même si elle est terrible. Et je l'entends, mais parce qu'à un moment, lui aussi, il a besoin d'être payé.
Oui, alors j'entends cette facette-là. En tout cas, je vous dis, je suis la première, mais moi, si j'étais propriétaire, je pense à ça, évidemment. Mais alors, en fait, il se trouve que dans son cas, il n'est pas dans le besoin. C'est un PDG de sa boîte, il vit une belle maison dans le Vercors, vue sur les montagnes, il a tout ce qu'il faut. Et j'entends que lui veut récupérer ça, mais lui, j'entends, j'ai pas de problème, pas de mais d'ailleurs dans mon propos. J'entends. Ce que j'ai proposé, c'était, écoutez, en attendant la procédure,
prud'homale. Oui, c'est vrai, il aurait pu vous laisser un délai, mais après, le problème, c'est les prud'hommes. Après, si vous dites cette procédure, elle tombe dans 3 ans, vous voyez, c'est ça le problème.
Au mois de juin,
ça va, ça fait 3 mois. Oui, il aurait pu attendre. Non, mais ça c'est vrai. Mais après, malheureusement, ce sont des choses au cas par cas. Mais restez avec nous, Alicia, parce que on a un autre invité qui est Eddy Jacquemart et qui est président de la CNL, la Confédération nationale du logement. Bonjour, Eddy.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai que quand on entend le témoignage d'Alicia, il est très fort, il est très dur, hein, ce témoignage. Mais c'est vrai qu'on se dit, quand vous êtes propriétaire, que vous avez une locataire qui est formidable, hein, comme Alicia, qui a toujours payé son loyer pendant 12 ans, mais qui là, tout d'un coup, ne paye plus. Alors, elle dit, voilà, j'ai une deadline dans 3 mois, et donc, a priori, je pourrais payer dans 3 mois. Mais c'est vrai, on a l'impression que la situation aujourd'hui en France, elle est inextricable, et que le fossé va forcément se creuser entre les locataires et les propriétaires.
Tout à fait. Alors le vrai problème, en fait, c'est le prix des loyers qui est trop cher.
Hein, déjà, vous avez raison, bien sûr.
Mais moi, je voudrais en fait faire une proposition innovante que je porte au nom de la CNL et qui va mettre tout le monde d'accord.
Allez-y.
Aussi bien les propriétaires que les locataires. C'est la sécurité sociale du logement. C'est quoi ? C'est une caisse de solidarité nationale alimentée par tous les acteurs du logement, c'est-à-dire le propriétaire, les locataires, l'État, les collectivités, les assurances, tout le monde met la main à la poche. Et en fait, on crée un petit peu comme l'assurance chômage.
C'est une nouvelle taxe.
Quand un locataire a un accident de la vie, ce qui arrive notamment, c'est le cas d'Alicia, et j'en connais plein. Un locataire a un accident de la vie, on déclenche tout de suite cette caisse de solidarité. On envoie une somme d'argent au locataire pour qu'il puisse payer son propriétaire. Et tout de suite, on essaie de travailler à une solution pérenne pour trouver une solution plus adaptée à la situation économique du locataire.
C'est une intermédiation.
Ça qu'on propose depuis des années. Mais
ça paraît bien. Ben oui, ça paraît bien, mais après, pourquoi le propriétaire paierait pour quelque chose, en fait, qui est indu pour lui?
Il y a des propriétaires qui payent 6% de leur loyer aux assurances.
Ouais.
Et pourquoi ils ne paieraient pas un tout petit peu?
Ah oui, ça enlèverait les assurances, d'accord. C'est à la place c'est formidable. Oui, bien sûr.
On a déjà essayé ça.
Et tu vas pas avoir plein de gens qui vont être encouragés à pas payer parce que derrière, ils disent, ouais, vous avez votre sécurité sociale.
Sauf que cette sécu se retourne contre le mauvais payeur pour X raisons.
C'est
un professionnel.
Vous savez, les locataires aujourd'hui, ils payent leur loyer. Ça a été dit dans votre émission. Les locataires, ils payent leur loyer. La majeure partie des locataires est par leur loyer. Il y a une toute petite partie, d'ailleurs le président de l'UNPI l'a dit, c'est les locataires qui sont de mauvaise foi, mais il y en a une toute petite partie.
Mais c'est des voyous, quoi.
Voilà, quand le locataire, quand il ne paye pas son loyer, c'est qu'il ne peut pas le payer. Et qu'il a eu un accident de la vie ou qu'il a eu quelque chose.
Bien sûr.
Et les accidents de la vie, eh ben moi je le dis. Hein. Et tout à l'heure, quand on dit qu'on va pas expulser des mamans avec trois enfants, tout ça, ce n'est pas vrai. Moi, je suis intervenu la semaine dernière pour une personne qui était une maman seule avec son petit garçon. Le problème, c'est que le propriétaire, il avait pris une assurance et que l'assurance, elle cherche pas à comprendre.
Mais bien sûr.
Ils expulsent. Elle a reçu un avis d'expulsion et elle se retrouve. Elle s'est retrouvée quasiment dehors. Heureusement, elle est intervenue. Et je le dis à Alicia, il y a des services qui existent pour aider les locataires en difficulté. Il y a aussi des associations. Il ne faut pas rester seul.
Mais on va vous mettre en relation, Eddy Jacquemart et Alicia, hors antenne, justement, pour que vous puissiez dialoguer. Et puis peut-être, Eddy, que vous pourrez trouver une solution pour Alicia. Mais c'est vrai que plutôt que de souscrire à des assurances qui parfois coûtent 10% du loyer, c'est vrai que s'il y avait effectivement, comme ça, une sécurité. Sécurité sociale du logement, tout le monde contribue, c'est-à-dire que le locataire aussi y contribue, et ben, franchement, ce serait bien et ça permettrait d'éviter des situations inextricables comme cette situation de cette vieille dame obligée de vivre dans son garage.
Voir combien parce il que demande son logement pour son est système.
Oui, mais regarde, si aujourd'hui tu payes, mais je dis n'importe quoi, mais ton loyer, mettons, il est de 500 euros, et ben, toi, propriétaire, tu vas toujours prendre une assurance, donc tu vas prendre 10%, tu vas payer 50 euros à ton agence pour être sûr de récupérer tes loyers si jamais il y a un problème.
Donc, seul, oui.
Ben, si au lieu de payer 50 à ton agence, bah, tu payes 30 à une sécurité sociale, bah, écoute, tu seras ravi. Et que tu as les mêmes droits en tant que propriétaire, tu seras ravi. Et si toi, en tant que locataire, bah, tu payes aussi 30 de plus, mais que ça te permet, en cas de coup dur de la vie, de pouvoir rester dans l'appartement, bah, finalement, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que la solution, elle paraît presque trop belle pour être vraie. Merci en tout cas, Eddy Jacquemart, de nous avoir parlé de cette solution. Et merci beaucoup, Christophe Demerson, d'avoir été avec nous. On espère qu'on va trouver une solution pour aider Alicia. En tout cas, on va terminer avec des messages. Rémi, résultat de notre consultation sur Twitter.
Message de Kat qui nous dit pour nous avons été confrontés à 3 ans de loyer impayé par notre locataire. Nous avons fini par prendre un avocat. Ça a duré 1 an. Une personne qu'on ne pouvait pas mettre dehors. Résultat, cette personne s'est révélée être non solvable. Pardon. Oui. Tout a été perdu. On a dû rembourser notre prêt et finalement vendre l'appartement.
Ouais, des témoignages très durs, évidemment. Et on va terminer avec le résultat de notre sondage. Rémi, en cas de loyer impayé, faut-il expulser sans délai?
C'est sévère, mais c'est comme ça. C'est oui pour 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, Charlotte Méritant, on va parler des échanges de maisons durant les vacances. Est-ce que c'est vraiment un bon plan?
Oui.
On en parle dans RMC Conso. Et puis ensuite, il y aura les immanquables, les informations qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec notamment, on va parler de trottinettes, hein, Rémi.
Oui, elles se vendent moins bien.
Bah oui. Je sais pas si arrivé. C'est une mauvaise nouvelle. Enfin bon,
pas,
on en parlera dans
ça
un autre
jour certain.
Sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h35, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, on parle conso avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et alors, on a commencé le débat pendant la pub, Charlotte, tellement le sujet du jour nous passionne. On va parler d'un système super économique pour partir en vacances, c'est l'échange de maisons.
Exactement, alors c'est un système beaucoup plus ancien que ce qu'on pense, puisque ça existe depuis 1953.
Ah oui ?
En fait, ça a été créé par une entreprise qui s'appelle Homelink, et à l'époque, ça se faisait sur catalogue. Donc les gens mettaient les photos dans les catalogues, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors évidemment, avec l'arrivée d'Internet, c'est devenu de plus en plus populaire. Et aujourd'hui, toutes plateformes confondues, on compte à peu près 180 000 inscrits. Alors, c'est partout dans le monde, hein. Mais quand même, en France, on est de plus en plus nombreux à le faire.
Enfin, alors, comment ça marche, en fait ?
En fait, vous postez une annonce sur la plateforme. Alors, évidemment, il faut partir du principe, il faut être d'accord sur le fait de prêter vous-même votre maison. C'est toujours un petit peu là où il y a des réticences. Mais donc, vous postez une annonce.
Ils veulent simplement emprunter, mais ils ne veulent pas prêter la leur.
Ah, c'est pas possible.
Là, ça paraît un peu bizarre. Comme
ça s'appelle une location.
Couchsurfing, ça existe aussi. Mais ouais, évidemment, c'est pas possible. Alors, vous postez une annonce, vous écrivez une description, vous mettez des photos, etc. Et puis, l'important, c'est de dire où est-ce que vous-même, vous voulez partir et quand. Et puis, ensuite, soit vous faites des propositions à des gens qui ont déjà posté des annonces, soit vous attendez qu'on vous propose un échange de maison.
Enfin, faut quand même un sacré coup de bol pour tomber sur un truc qui match. C'est-à-dire tomber sur la maison que vous voulez, dans l'endroit que vous voulez, aux dates que vous voulez, et que de l'autre côté, votre maison corresponde aux desiderata de l'autre, quoi.
Et alors, tu peux échanger genre une villa dans les Caraïbes contre un studio à Paris?
Ah, oui, complètement. Si le propriétaire de la villa aux Caraïbes est OK pour venir dans le studio à Paris, oui, bien sûr. C'est le principe. Alors, il y a deux systèmes. Effectivement, pour le premier système, qui est la réciprocité totale, il faut être un petit peu flexible. Mais moi, les plateformes que j'ai interrogées, qui sont Home Exchange et Homelink, me disaient qu'il n'y avait pas que l'aspect économique derrière. Il y avait tout un état d'esprit. Ouais. Il y avait un genre de philosophie, de
quoi,
convivialité,
exemple,
de faire des rencontres.
Prêter sa maison,
convivialité, mais tu ne les rencontres pas.
Non, vous n'y connaissez rien. Vous n'y comprenez rien. Moi, je vais vous expliquer. Ça fait des années que je fais ça. Sur un des deux sites.
Tu vas nous expliquer que tu es devenu ami avec les gens avec qui tu as échangé à
maison. T'as des super relations quoi, avec des gens avec qui tu vas pas rester ami, mais c'est effectivement une philosophie. Moi, j'ai eu un mal fou à passer le cap, mais le jour où je l'ai passé, je l'ai jamais regretté.
Ah ouais,
parce que tu laisses ta maison. Ce qui est très touchant, c'est que tu vas chez les gens et tu vas voir, ils ont laissé de l'argent sur la table, ils ont laissé leurs bijoux, ils ont laissé leurs papiers, et ça marche sur la confiance.
Et d'ailleurs,
c'est incroyable.
Tout peut être échangé. Hein. Tu peux échanger voiture, moto, ouais, abonnement à la salle de sport.
Non.
C'est presque une vie que tu échanges finalement.
Mais je ne connais pas.
Excusez-moi, mais en termes d'économie, c'est vraiment économique.
Une semaine de vacances en France, un hébergement, une semaine en France l'été, c'est entre 1000 et 1200 euros la semaine en fonction de la région. Donc 1000 euros, 0 euros, l'économie est vite calculée.
Oui, c'est sûr.
Oui, clairement, c'est hyper économique. Et d'ailleurs, la plateforme que j'ai interrogée me disait, il y a un couple d'Irlandais qui le fait depuis 2002 et ils estiment avoir économisé 80 000 euros comme ça. Et il y a même des gens qui font le tour du monde avec ce principe d'échange de maison. Donc c'est vraiment efficace. Après, ça peut aussi vous permettre tout simplement d'aller passer une semaine à la mer.
Le tour du monde que toi tu fais, c'est-à-dire que le type qui vient, il occupe ta maison, elle est occupée pendant un an.
Oui, ça peut être plusieurs personnes qui se succèdent.
Ça peut être ta résidence secondaire.
Exactement. Et tout ça à condition, bien sûr, que le propriétaire de la maison, par exemple en bord de mer, si vous voulez aller en bord de mer, veuille bien de ton appart à Paris en échange. Et ça, c'est quand même pas gagné, quoi.
Alors, il y a un deuxième système qui fait que c'est possible, c'est le système de points. En fait, c'est comme une monnaie virtuelle qui fait que quand vous prêtez votre maison, vous cumulez un certain nombre de points. Et ensuite, ces points, vous allez pouvoir les utiliser pour emprunter la maison que vous voulez. Ce qui évite justement ce problème de je veux bien aller là, mais la personne n'a pas envie de venir chez moi.
C'est un truc pourri à échanger.
Mais ça marche pas.
Ça marche pas.
Bah, des biens d'un certain niveau.
Des jolis biens.
Ta maison, si tu veux, elle vaut tant de points par nuit. La mienne, elle vaut, je sais plus, 230 points par nuit. Puis t'en as, c'est 40 points par nuit parce que c'est tout petit, parce que c'est un peu exigu,
Voilà le nombre de points qu'on
c'est très bien fichu, hein,
est quand même calculé en fonction de la qualité du logement, effectivement.
Mais alors là, on vient de parler des squats pour le coup. Mais il y a quand même un risque. Excusez-moi, vous prêtez votre maison à quelqu'un qui a donc vos clés, vos papiers, vos bijoux, votre argent. Vous avez quand même un risque de retrouver les serrures changées quand vous rentrez. Quoi.
Bah, le premier point, c'est que comme la personne elle-même prête sa maison.
Le
système de points pour accumuler des points.
Voilà, pour qu'elle ait des points pour emprunter votre maison, elle-même a forcément déjà prêté sa maison.
D'accord,
avant.
Okay.
Sinon, elle aurait pas de points, elle pourrait pas le faire. Donc ça, c'est un premier, une première réassurance. Le deuxième point, c'est que vous payez une adhésion sur les plateformes. D'ailleurs, passez par les plateformes, ne le faites pas via les groupes Facebook, etc. Vous payez entre 100 et 200 euros l'adhésion. Ça fait un engagement qui vous protège aussi. Et le troisième point, c'est en cas de dégâts, vous êtes quand même couvert.
Oui, oui.
Déjà par votre assurance habitation, parce que c'est considéré comme un prêt. C'est comme si vous invitiez des gens, des amis chez vous. Donc l'assurance habitation, elle marche en cas de dégâts. Et puis les plateformes, parfois aussi, prévoient des garanties vol, des garanties casse, etc. Donc c'est assez bien ficelé quand même tout ça.
Merci beaucoup Charlotte Méritant. Et si vous voulez retrouver la chronique de Charlotte, c'est bien sûr en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et tout de suite, on parle Jeux Olympiques. On vous fait gagner des places pour les JO. Et aujourd'hui, notre grand gagnant, eh bien, c'est Thomas. Thomas qui nous appelle de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Thomas.
Salut Estelle, salut toute l'équipe.
Et Thomas, je sens un peu de stress dans votre voix. C'est normal parce que vous allez devoir faire un choix.
Ouais.
Thomas, le choix entre deux places, deux épreuves des JO. Le choix entre quoi et quoi aujourd'hui, Rémi?
Alors Thomas, écoutez-moi bien. Vous avez le choix. Soit pour deux places pour les épreuves de natation.
Oh là là.
La finale hommes et femmes des relais 400 mètres nage libre avec peut-être l'équipe de France. Et la finale hommes et femmes du 400 mètres nage libre.
Oh, mais c'est
ça,
génial.
Ça se passe le 29 juillet à la Défense Arena.
Génial.
Ou alors, vous pouvez choisir deux places pour la finale et les combats pour les médailles de bronze de judo, notamment avec la catégorie moins 63 kilos chez les femmes, avec une certaine Clarisse Agbenienou. Ça sera le 27 juillet. Ah, c'est le 27 juillet à la Défense Arena.
Mais alors, attends, c'est pour la médaille de bronze, ça?
Ouais.
Ah, mais la médaille d'or. Je prends la natation tous les jours. Thomas, vous prenez quoi?
Ça va être comme vous et elle, ça va être natation.
Bien sûr.
C'est pour en plus l'ambiance dans les piscines à ce moment-là, c'est dingue.
Mais bravo, mais Thomas, mais ça va être mais je vous assure, ça va être extraordinaire. Je me bats pour essayer de trouver des places pour la natation depuis des mois. Et ça va être génial. Vous allez vivre un moment absolument.
Thomas, tu peux peut-être revendre tes places à Estelle. J'ai fait un peu de gras.
Ouais, on va se mettre en relation en antenne histoire que je vous les rachète. En tout cas, non mais je suis contente pour vous, Thomas, parce que voilà, vous allez vivre un moment absolument exceptionnel et on est content de vous l'offrir à ce moment. Thomas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous et le jour continue sur RMC.
Exactement. Pour vous inscrire, il y a au total 100 places à gagner. Vous envoyez tout de suite l'expression Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
Allez, on se retrouve dans un instant pour les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h46, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure des immanquables d'Estelle Midi, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Avec Rémi Barret, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Daniel Riolo. Et on démarre tout de suite avec la conférence du jour, Rémi.
Une conférence prévue jeudi à Lille, créée polémique, organisée à l'université de Lille 3. Elle a pour thème la question palestinienne, avec pour invité Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan de la France Insoumise. En cause, pourquoi cette polémique? Parce qu'elle est organisée par l'association qui s'appelle Libre Palestine, une organisation de l'événement donc, qui se présente comme dédiée à l'éveil des consciences et à l'action solidaire au sein de l'université de Lille en soutien des Palestiniens. Le syndicat étudiant de droite, l'UNI notamment, dénonce une conférence qui sera l'occasion de faire un meeting politique contre Israël.
Ça vous choque, Thierry Moreau, ou Jean-Luc Mélenchon fait encore bien ce qu'il veut?
Alors moi, c'est pas tellement la conférence en elle-même qui me choque, c'est l'affiche sur laquelle il y a le logo de cette fameuse association Libre Palestine, qui représente en fait le territoire avec marqué Libre Palestine, avec ce fameux slogan du Jourdain à la mer, où il n'y a plus l'État d'Israël. C'est-à-dire que le logo de cette association montre un territoire sans l'État d'Israël. C'est donc de l'antisémitisme pur et dur. Voilà. Moi, c'est ça qui me choque.
Et ça t'étonne?
Alors, ça ne m'étonne pas, mais ça me choque plus que jamais.
Alors, évidemment que c'est choquant et pas du tout étonnant, puisque ça fait des années maintenant que la dérive de ce parti, qui n'est même plus une dérive maintenant, puisqu'ils sont complètement accrochés à l'îlot antisémite. Je ne sais pas pourquoi pendant tant d'années, de mois, les principaux membres de ce parti sont venus sur tous les plateaux télé pour se défendre de ça, alors que tous leurs actes montraient qu'ils étaient ça, justement. Donc, évidemment que c'est pas étonnant, mais qu'ils assument, quoi, qu'ils aillent au bout de leur truc.
J'espère qu'ils vont être condamnés.
Qu'ils aillent au bout du truc, qu'ils disent, nous, de toute façon, on est un parti islamiste, on l'est clairement, de toute façon, c'est la boutique, c'est ce qu'on vise maintenant. On défend l'Iran parce qu'on trouve que l'Iran, bah, c'est un pays formidable. Israël, on veut que ce soit détruit parce que de toute façon, il y a des gens dans notre parti qui assument ces idées depuis longtemps. En l'occurrence,
C'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon.
Non. Enfin, bah, à un moment, quand tu fais des réunions, quand tu fais des réunions
ou quand tu mets sur ta liste des gens qui tiennent ces propos-là, tu peux pas venir dire moi je tiens pas les mêmes quand c'est pas.
Mais là là c'est une université publique qui organise ce
déjà
débat.
Déjà c'est une association.
Oui, mais
une association, mais par qui elle est hébergée, ça va se faire où?
Par l'université.
C'est dans des lieux publics. Donc le fait même que cette conférence se tienne, c'est un scandale. Le fait même que Mélenchon, alors moi je veux bien, mais ils ont, LFI a quand même mis sur sa liste aux européennes et en 6e ou 7e position, enfin pas très loin, cette personne qui est, il suffit de consulter tous ses écrits, toute sa communication, est totalement pour la destruction d'Israël. Donc si c'est le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon, faut pas venir me dire derrière. Il a pas dit ça, Mélenchon. Non, Mélenchon, il a dit ça puisqu'il valide. C'est comme, pardonnez-moi, la députée, j'arrive jamais à dire son nom.
Ercilia Soudet.
Voilà, exactement. Cette personne, quand elle met sur le même plan dans une discussion Israël et l'Iran, il y a plus de mystère. L'Iran, c'est clairement un pays qui veut que ce pays n'existe plus, qui veut le rayer de la carte. Donc, faut pas venir me dire Mélenchon n'a pas dit ça. C'est pas vrai. Tous les gens qui sont affiliés à LFI, ils sont obligés d'assumer ce que disent les gens qui sont sur cette liste et qui se présentent à des élections. C'est clair, c'est net. C'est un parti d'extrême gauche et islamiste. Basta. Il faut arrêter les mystères et faut arrêter de pas dire les mots.
On va passer aux ventes du jour.
Le marché français des trottinettes électriques a marqué le pas en 2023 après l'euphorie qui a suivi la pandémie. 678 000 trottinettes électriques neuves ont été vendues l'an passé. Le marché accuse ainsi un repli de plus de 10% par rapport à 2022. Recul également du prix de vente moyen en baisse de 11% sur un an à 408 euros.
C'est normal, c'est super dangereux.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, le recul des ventes de trottinettes, Emmanuel Dancourt. Est-ce que vous êtes trottinette ou pas du tout?
Ah, moi, ça me fait peur, moi.
Ah oui.
J'ai un gamin qui vient de s'en acheter une là, avec son argent de poche. Je suis vraiment très insécurisée. Puis alors, évidemment, jamais y mettre des casques parce que c'est pas cool. Très très insécurisée. J'ai peur de l'accident. J'ai peur de le taux d'accidentologie. On l'a dit il y a pas longtemps, a augmenté. T'es protégé par rien. Vraiment par rien.
Mais tu sais, c'est surtout sur les trottinettes en libre-service où c'est pas à toi, tu fais n'importe quoi. Quand c'est ta propre trottinette que tu l'as achetée avec ton argent de poche, j'ose espérer que tu fais pas une face plus
attention. Ça te met pas à l'abri de l'accident.
Ouais, mais tu y fais plus attention.
Mais toi, oui. Mais le conducteur en face, il est toujours là quand même. Et tu es toujours sans casque, absolument pas protégé. C'est trois fois rien une trottinette. C'est deux bouts de bois, quoi. Enfin, deux bouts de fer plutôt et deux roues, quoi. C'est juste ça. Il y a un moment angoissé, là. Ah ouais, moi je suis complètement angoissée. Voilà, donc ça me rassure que y a mon chéri qui me disait tiens tes jumeaux l'année prochaine ils seront chacun dans leur ville en train de faire des études, je vais leur acheter pour leurs études une trottinette électrique. Je disais non.
Non, ils iront à pied.
Non, ils iront à pied, oui, voilà. Toi, tu me diras, le vélo, c'est guère mieux, mais au moins, ça va moins vite, quoi.
Voilà. Bon, écoutez, je vous ai bien déprimé, là, Emma.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous rendre le sourire, grâce à Vincent Serroussi. Notre humoriste qui est là pour ça, quand même, c'est son métier. Vincent Serroussi n'a pas tout compris. C'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent.
Salut Estelle.
Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Carlos Tavares, le patron de Stellantis, va toucher 36 millions d'euros de rémunération.
Je me suis trompé de Carlos, autant pour moi. Pardon, je me suis retrompé de Carlos. Non, là, on parle de Carlos Tavares. Excusez-moi, Carlos Tavares, oui, qui devrait toucher pour l'année 2023 près de 36 494 025 euros. Bon, il y a tellement de chiffres, c'est plus un salaire, hein, c'est un code Wi-Fi. Quand Daniel a vu ça, il savait pas si Tavares c'était un patron, un attaquant du Real Madrid. Il croyait que c'était le cousin de Carlos Tevez, mon pauvre Daniel. Non, Tavares, c'est bien le patron de Stellantis, hein, groupe automobile qui possède 14 marques de voitures, dont Fiat, Peugeot, Chrysler, Jeep, Opel. En gros, c'est LVMH avec des jantes, quoi. Il gagne énormément d'argent.
Merci Wikipédia, mais en tout cas, c'est la rémunération de Carlos Tavares qui fait polémique.
Oui, la rémunération fait polémique. On a entendu Bruno Le Maire, choqué. Puis après, on l'a vu dans son bureau envoyer un CV, écrire une lettre de motivation pour continuer chez Stellantis. D'ailleurs, vous êtes tous choqués, hein, sauf Thierry. Thierry, ça l'a pas trop choqué. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a des actions chez Stellantis. Mais j'imagine que voilà, si vous, on vous donnait 36 millions d'euros, hein, vous seriez pas mécontent non plus. Voilà, Emmanuel Lancourt m'a dit qu'elle avait calculé et qu'avec 36 millions d'euros, elle pourrait acheter 102 000 allers-retours par Dijon. Ça fait quand même une sacrée économie. Hein, Daniel, lui, il s'achèterait directement Luis Enrique. Hein, pour lui hurler dessus et lui dire qu'on n'a pas compris sa compo contre le Barça.
Parce que l'autre, il fait des surprises. L'autre, c'est Kinder surprise. Tous les jours, ils ouvrent un 9. Ah bah tiens, je vais jouer 8. Je vais jouer 9. Je vais jouer machin.
Énervé, Daniel.
Oui, d'ailleurs, le match retour, c'est ce soir.
Je sais, c'est pour ça.
passé.
Vous trouvez pas quand même que 36 millions d'euros, c'est un peu indécent?
Écoutez, après j'ai vérifié sa fiche de paye. Ok, il gagne 36 millions d'euros, mais il a pas le droit au ticket resto. Il y a quand même pas que des avantages non plus.
Oh, hein. Le pauvre.
À 36 millions d'euros, t'es obligé d'aimer ton travail. 36 millions d'euros, tu peux pas arriver au taf et dire vous prenez en charge le passe Navigo. Il faut voilà, Carlos Tevez, Tavares, pardon, c'est le seul mec qui peut gagner au loto et être déçu. Il y a quand même des inconvénients. Ah, oui.
Mon ami, à ce niveau-là, tu joues plus quoi. Vincent, dans l'émission, on s'est aussi demandé s'il fallait expulser sans délai les locataires qui ne payent pas leur loyer.
Alors, faut voir, les locataires, squatteurs, il faut voir à partir de quand on est considéré comme squatteur. Pour moi, si vous entendez devant votre porte,
mais dehors les Romano,
c'est que vous n'êtes pas chez vous. Voilà, sachez-le. Après, t'as aussi des propriétaires qui abandonnent eux-mêmes leur logement. Une fois, moi, mon ex, elle a vu une araignée dans la salle de bain, on a dû quitter la maison directement. Mais dans tous les cas, si vous avez des problèmes avec des squatteurs, moi, j'ai des copains qui ont monté une société pour déloger les squatteurs plus rapidement. Je sais pas si vous connaissez, c'est ATF, l'association des Tchétchènes de France. C'est super efficace. Je recommande.
Il y a une affaire qui notamment a fait parler d'elle. Hein. C'est une sexagénaire qui s'est rendue au tribunal avec un bidon d'essence parce que les squatteurs occupaient sa maison.
Et cette pauvre dame fait face à des squatteurs qui occupent sa maison à l'Esparou dans l'Ariège. Et là, évidemment, on est tous choqués. Voilà. Les squatteurs avaient le choix dans toute la France. Ils ont décidé de squatter à l'Esparou dans l'Ariège. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Et cette femme ne peut rien faire hein, puisqu'une loi protège les squatteurs en France. Ça s'appelle la loi. Tant pis pour toi. Voilà. Du coup, cette femme est coincée dans son garage et elle essaie de réfléchir à savoir comment expulser ses locataires. Après, bon, t'as quand même des avantages. Quand t'es dans ton garage, tu peux avoir des bonnes idées. Voilà, par exemple, Steve Jobs avec Apple ou même Xavier Dupont de Ligonnès.
Mais donc vous, Vincent, vous êtes pour l'expulsion directe des squatteurs?
Évidemment, Estelle. Un squatteur, c'est comme un pote qui est chez toi parce qu'il s'est fait larguer, sauf qu'il s'est pas fait larguer et que c'est pas ton pote. Excusez-moi. Une fois, ça m'est arrivé. Un mec est arrivé chez moi. Il me dit c'est chez moi. Je lui dis non, c'est chez moi. Il me dit non, c'est chez moi. Je lui dis franchement, c'est pas cool, papa. Bon, les squatteurs, est pas très sympa. Bon, alors, les squatteurs, voilà, c'est vrai que la France les protège. Elle protège quelque part des personnes dans l'illégalité, mais pas celles qui respectent la loi. En fait, en France, c'est le pays des droits de l'homme, mais pas toujours des bons hommes, quoi.
Merci beaucoup, Vincent Cerussi. Tous les jours, Cerussi n'a pas tout compris. À 14h50 dans Estelle Midi, et c'est la fin de l'émission. Vous retrouvez tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show. Et nous, eh bien, on se retrouve demain midi 15h dans Estelle Midi. Salut.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.